Comme annoncé, on ouvre ce magazine avec la revue de presse des hebdos. Salut Arlette.
Salut Léo, bonjour à toutes et à toutes.
La grande vedette de la semaine dans tous les hebdos, c'est la politique politicienne, ses acteurs, ses observateurs, ses dessous, ses à côté, les pensées, les analyses qu'elle suscite. Tu commences par le canard enchaîné.
Alors sans surprise, le canard enchaîné, tout au long de ses 8 pages, s'en donne à cœur joie sur les concerts de casseroles qui accompagnent chaque déplacement de l'exécutif dans son ensemble et ceux du président de la République en particulier. Alors il y a un très joli dessin de ce même président coiffé d'une casserole dans la mare. Mais à la une, j'ai repéré un article moins tonitruant mais plus révoltant. Les barbus cherchent la chercheuse. Où on apprend que Florence Bergeau-Blackler, chercheuse anthropologue au CNRS, spécialiste des frères musulmans, qui vient de faire paraître un ouvrage intitulé « Le frérisme et ses réseaux, l'enquête » chez Odile Jacob, est en proie au harcèlement et aux menaces de mort de la part des barbus et entre autres d'un certain François Burga. François Burga, je dis deux fois son nom, des fois qu'on l'oublie, proche du Qatar, proche de Tariq Ramadan, de triste mémoire. Alors 800 personnalités ont signé une pétition de soutien parue dans l'Express et avec un peu de retard, le CNRS s'est quand même fendu d'un message de soutien sur Twitter. Toujours dans la mare, dans les plus belles perles des russophiles, on découvre les noms de ces hommes politiques affiliés à l'extrême droite et très liés au régime poutinien. Charmant. Alors votre attention, s'il vous plaît, en lisant ces têtes d'ampoule qui préparent la nationalisation d'EDF afin d'empêcher le démantèlement de l'entreprise en revendant ses activités les plus rentables, comme les énergies renouvelables. Alors retenez le nom d'Alexis Kohler, encore un nom que je vais répéter deux fois, Alexis Kohler, secrétaire général à l'Élysée, il est à la manœuvre. On apprend aussi que Darmanin et sa volonté de dissoudre l'assaut, les soulèvements de la terre, risquent non seulement de faire plouf, mais peut-être même de devoir payer des dommages et intérêts pour les dégâts causés par les forces de l'ordre sur des terres agricoles privées. Ah ben oui, c'était pas le domaine public, dis donc, c'était des terres privées. C'est bête, hein. Oh là, vraiment. Plus près de nous, à Lormont, le promoteur Pichet aurait bénéficié d'un prix d'amis dans l'achat de terrain dans le quartier de l'Ermitage. Alors, joli petit scandale de proximité. Et puis, pour rigoler, on dit Bercy qui ? Où on apprend que le ministre aux 300 milliards de dettes, Bruno Le Maire, BLM pour les intimes, vient de sortir son 5e roman et que tous les week-ends, il se livre à des activités sportives diverses et variées sans manquer de nous souhaiter sur son compte Instagram un bon week-end aussi. Bah, c'est sympa, non ? Et un autre mec sympa, le nouveau patron de la FNSEA, Arnaud Rousseau, son portrait au vitriol en page 7. Et pour finir de vous pourrir votre week-end, en bas de la page 8, état de glace. Les glaciers fondent, la sécheresse et les inondations gagnent. La mer monte et les océans sont frappés de canicules, tout comme les capitales européennes. La faute au réchauffement climatique. Les responsables sont identifiés depuis longtemps. Allez, lisez, puis froissez le canard et jetez le par terre avec colère, ça soulage.
Politique encore avec le 1 qui demande, y a-t-il encore des contre-pouvoirs ?
Pour mettre vos idées en place et ne pas délirer sur l'état de notre République démocratique malgré tout, autrement on ne serait pas là, n'est-ce pas ?
Eh oui.
Voilà. Alors ouvrez le 1 directement sur le poster. Un titre, jeu d'équilibre, chapeaute une illustration conçue par Patrice Trappier, c'est un journaliste du 1, et réalisée par Claire Marta. Elle cartographie de manière non exhaustive les pouvoirs et contre-pouvoirs en France, de la capacité de censure aux armes de l'influence. Vous pourrez vous y référer pendant la lecture des articles qui composent ce numéro passionnant, comme d'habitude. Autre illustration réjouissante dans Repères, Julien Revenu a recensé en dessin l'action des lanceurs d'alerte de 2005 à nos jours. Alors je vous rappelle qu'en France, une loi protège les lanceurs d'alerte. Alors n'hésitez pas si vous avez quelque chose à... Voilà. Thierry Pêche, co-président du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat, signe un long article sur ce moment de politique participative dont les résultats, selon lui, sont plus positifs que ce qui en a été dit. Alors je le cite. Après l'adoption de la loi Climat et Résilience à l'été 2021, la plupart des journaux ont écrit que le gouvernement avait vidé comme une huître le rapport de la Convention. Et il ajoute, souvent les mêmes, 2 ans plus tard, décrivent les ZFE, zones à faible émission, comme une bombe sociale à retardement. D'autres prétendent que l'obligation de rénovation thermique faite aux propriétaires, bailleurs, va bouleverser le marché locatif ou que le zéro artificialisation nette va rendre impossible la construction. Pourtant, toutes ces mesures poussées par la Convention appartiennent à la loi Climat et Résilience, un texte plus riche et complexe qu'on ne l'a d'abord cru. Alors pour lui, la démocratie citoyenne ne vise pas à remplacer la démocratie parlementaire, mais à l'enrichir et à l'augmenter. Il termine ainsi son article. La Ve République a très clairement fait pencher le fléau de la balance du côté de l'efficacité au détriment de la délibération. Il nous revient de rééquilibrer cette balance. Et puis encore, vous pouvez lire un bel hommage à l'action des syndicats signé Stéphanie Matedi-Lecoq. Dominique Rousseau, dans l'entretien, est plus pessimiste et pense que nous vivons une crise de régime.
Télérama interroge une sémiologue sur les mots qui se disent, les mots qui s'écrivent en politique.
L'invitée de la semaine, Cécile Alduy, sémiologue, prof à Stanford, analyse la crise qui traverse actuellement la France au travers des mots que les politiques emploient à longueur de communication, que les manifestants crient dans les rues, qu'ils écrivent sur leurs pancartes. Tous ces mots ont pris l'allure d'un étourdissant tourbillon de paroles, des gestes, de symboles dessinant une période pas toujours très facile à comprendre. Elle s'y emploie pourtant dans cet entretien. Elle est très sévère pour l'exécutif qui, je cite, « a vidé de son sens le discours politique ». Mais elle n'est pas plus indulgente pour les députés insoumis qui ont créé un spectacle politique empêchant lui aussi la mise en place d'un espace de dialogue, de délibération et de compromis. L'hémicycle est détourné de sa fonction première. Être un lieu de création du droit pour devenir une plateforme de streaming. Pour elle, les seuls dont la parole a encore du sens est celle des syndicats, assez calme et rationnel dans le chaos ambiant, comme la plupart des slogans des manifestants. Alors au sommaire aussi, le dossier interroge éduquer, c'est punir. Les pédagogues et autres psys se disputent depuis très longtemps sur le sujet. Ils ne sont toujours pas d'accord. Et puis, pour finir, une bien jolie chronique consacrée au printemps, signée par l'historien François Walter.
Après les mots, les acteurs. L'Express, cette semaine, s'intéresse aux personnages qui jouent sur notre scène politique.
Alors d'abord, évidemment, Emmanuel Macron, pour qui l'enfer, c'est les autres. Sur les retraites, comme sur le reste, le président est atteint du syndrome du bon élève persuadé de comprendre et de faire mieux que tout le monde. Les sondages du moment le rappellent, les bons élèves n'ont pas la cote. Les présidents ont le droit, et parfois, dans certaines circonstances, le devoir d'être modestes, même si l'histoire rappelle que c'est rarement leur qualité première. Il se trouve qu'en ce moment même, sur la scène politique, les rôles sont redistribués. Dans la pièce de théâtre qui est devenue le dialogue social à la française, de nouveaux acteurs s'apprêtent à entrer en scène. Certaines têtes d'affiche sont des inconnues. Sophie Binet, la secrétaire générale nouvellement élue à la CGT, ou plus récemment Marie-Lise Léon, qui va remplacer Laurent Berger à la tête de la CFDT. Et qui succédera à Geoffroy Roux de Bézieux à la présidence du MEDEF? L'élection est prévue le 6 juillet. En lice, Patrick Martin, le candidat de la continuité, Dominique Carlac, déjà candidate en 2018, qui dirige une société de conseil, ou encore Pierre Brajeux, président délégué de la Fédération française de la sécurité privée, estampillé candidat de la rupture. Donc, attendons un peu avant de retenir leur nom. L'incontournable Jean-Luc Mélenchon, selon l'Express, s'il a eu l'intelligence politique de faire la nupe, cet accord électoral au succès très relatif est devenu son carcan, son empêcheur. Le leader n'est plus maître en son palais, concurrencé par François Ruffin aux yeux des électeurs de gauche, selon l'enquête de l'Institut Elab. Ah, François Ruffin! Olivier Perroux raconte les dessous de sa rivalité avec Mélenchon, ses nouveaux amis, son ambition débordante. Le député de la Somme rêve de 2027 et s'y prépare. Dans un sondage Elabe, toujours pour l'Express, François Ruffin est vu comme un meilleur candidat que Jean-Luc Mélenchon et bien moins arrogant et autoritaire aux yeux des électeurs de gauche. Les seconds rôles maintenant, le maire Darmanin, Attal, séduction des classes moyennes et course de petits chevaux. Dans l'article d'Erwan Brückert et Éric Mandonne. Allez, on baisse le rideau.
En France, on discute sur une crise de régime. Dans le reste du monde, on discute du danger potentiel de l'IA. C'est le dossier de Courrier International.
L'intelligence artificielle en roue libre. Et si les intelligences artificielles génératives, nourries de plus de contenu qu'aucun cerveau humain ne peut l'imaginer, nous dépassaient ? La question préoccupe aujourd'hui la presse étrangère, mais aussi les gouvernements, et nombre d'entre nous, d'un bout à l'autre de la planète. Au cœur de leurs inquiétudes, des questions éthiques, la peur de perdre le contrôle, d'être remplacé. Faut-il pour autant s'affoler ? Comment encadrer les IA génératives et composer avec elles ? En quoi cela risque-t-il de toucher nos vies, nos métiers ? Le Courrier a traduit de nombreux articles de la presse étrangère. Vous trouverez dans le dossier, sinon les réponses à toutes ces questions, mais au moins des réflexions pour nourrir vos inquiétudes ou les apaiser. Vous êtes-vous demandé si et comment les autres font grève en Europe ? Le Courrier fait un focus sur le sujet. Eh bien oui, nous ne sommes pas si originaux. En Allemagne, en Italie, au Portugal, en Grande-Bretagne, on fait aussi la grève. Et puis connaissez-vous le Centre européen des astronautes, EAC, l'école des astronautes ? Elle se trouve à Cologne. 5 petits nouveaux ont rejoint cette école le 3 avril dernier. 3 garçons et 2 filles, dont une française. La lieutenant-colonel Sophie Adnaud. Officière de carrière dans l'armée de l'air française, elle est pilote d'essais d'hélicoptère avec plus de 3000 heures de vol à son actif. Pour son mémoire de maîtrise, elle a étudié comment le système vestibulaire s'est situé dans l'oreille interne. Je suppose que tu le savais.
Bien sûr.
Mais bien sûr. Et contribuant au... Pour son mémoire de maîtrise, elle a étudié comment le système vestibulaire situé dans l'oreille interne et contribuant au maintien de l'équilibre s'adapte au changement artificiel de gravité, ce qui devrait se révéler utile. Dans l'article de Roel Verriken du Temps de Bruxelles, vous trouverez tous les détails sur cette formation. Alors si vous avez envie de devenir astronaute...
Et si vous êtes taureau, l'horoscope de Rob Bresny pourrait bien vous inciter à postuler.
Après la chute de l'Empire romain, ses anciens territoires se sont déchirés durant des siècles et des siècles jusqu'à ce que Charlemagne, qui serait né le 2 avril 747 ou 742, ou encore 748, on n'est pas très sûr, unifie une grande partie de l'actuelle Europe de l'Ouest. C'était un homme singulier sous maints aspects. Par exemple, il s'est évertué à apprendre l'art de lire et d'écrire à une époque où l'illettrisme était la règle. La plupart des chefs d'alors y voyaient des compétences indignes d'eux et dénuées d'intérêt. Alors si je te raconte cela, Taureau, c'est parce que je pense que le temps est venu pour toi d'apprendre des choses que tu as jusqu'à présent considérées comme inutiles, inintéressantes, voire hors de ta portée. Quelles peuvent être ces choses ? Et pourquoi pas, comment devenir astronaute, par exemple ?